Bienvenue pour cette déjà dernière journée de la 9e édition du Livre sur les quais et pour cette rencontre improbable. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre improbable ? L'année dernière, j'avais imaginé de faire rencontrer deux auteurs qu'a priori on ne s'attendait pas à voir ensemble et on avait fait une assez jolie rencontre entre Anne Niva et Marc Lévy. Et je me suis dit, il faudrait prolonger cette idée et faire une autre rencontre improbable pour l'édition 2018. Et on avait pensé à Alain Mabankou et Yves Coppens. Malheureusement, Yves Coppens a été hospitalisé juste avant le Livre sur les quais, deux jours avant. Il a donc fallu trouver une autre idée. Et on a, parmi les auteurs suisses, et les auteurs genevois en particulier, un garçon qui s'appelle Mathieu Mégevant, qui vient de sortir un très beau livre chez Flammarion, où il est question de poésie. Ce sera pour nous l'occasion de parler de la poésie d'Alain Mabankou aussi. Et il a accepté de jouer le jeu, de venir un peu au déboté comme ça. Je vais vous demander d'accueillir Mathieu Mégevant. Mathieu, c'est à toi. Et évidemment, Alain Mabankou est là et je vous demande de l'accueillir également. Voilà, donc la rencontre improbable est doublement improbable puisque le casting initial a dû être modifié. Alain Mabankou, on vous connaît bien. Je vais quand même rappeler que vous êtes né à Pointe-Noire, en République du Congo, où vous avez passé votre enfance, où vous avez obtenu un baccalauréat en lettres et philosophie au lycée Karl Marx.
Merci.
Surtout pour le Karl Marx.
Pour le Karl Marx.
Oui, c'est ça. Mathieu Mégevant, vous êtes né à Genève, vous avez grandi à Genève, puis pas mal voyagé. Vous êtes titulaire d'une licence en philosophie et d'un master en histoire des religions. Premier point commun, la philosophie. Comme je dirais l'un de vos fondements finalement, elle a eu de l'importance la philosophie dans votre, ce que je vais appeler votre vocation d'écrivain, Mathieu Mégevant.
Oui, dans le sens où c'est difficile comme question, mais oui, dans le sens où évidemment à la base, enfin en tout cas pour moi, la philosophie c'était lié à une espèce de quête de sens et de compréhension du monde un petit peu plus développée que simplement ce qu'on peut en percevoir comme ça a priori, donc l'écriture, c'est une autre quête qui... On peut faire un parallèle, justement, dans cette tentative de compréhension du monde. Alors ensuite, il y a certains livres, par exemple, Ce qu'il reste des mots sur le drame de Sierre, qui a clairement une orientation philosophique.
J'y reviendrai.
Et du coup, là, même des philosophes sont cités et m'ont beaucoup servi. Et d'autres livres où c'est moins présent, comme le dernier, par exemple.
Et chez vous, Alain Mabankou, la philosophie, ça joue encore un rôle ?
On a tellement fait la fête que la voix est partie.
Ah, la vôtre aussi. La mienne ne tient plus qu'à un fil.
Mais avant de parler de philosophie, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Yves Coppens. C'est pas toujours bien de voir un monument de notre pensée être malade. On souhaite toujours une certaine éternité aux âmes les plus belles. Donc je souhaite que par ses paroles, que les griots d'Afrique, que les marabouts de l'Afrique de l'Ouest, que les charpentiers ou les sorciers puissent lui donner les forces de se lever et de continuer les rencontres les plus improbables de l'avenir. La philosophie pour nous a toujours été marxiste-léniniste. C'est pour ça que c'était bien de convoquer Karl Marx. Quand je vivais à Pointe-Noire, chez mes parents, chez mon oncle, il y avait toujours la photo de Lénine, de Karl Marx, et au milieu du président Marien Gwabi, qui est au cœur de mon...
De votre dernier roman.
De mon roman. Et j'avais toujours le sentiment que quand je mangeais, puisque j'étais en face de Karl Marx et de Lénine, ils avaient toujours... que Lénine, il avait la calvitie, mais la barbe de Karl Marx. Chaque fois que j'ai mangé, quelle que soit la direction dans laquelle je regardais, j'avais l'impression que Karl Marx me suivait. Donc il y avait une certaine peur que j'avais. Et quand on a commencé à étudier la philosophie en terminale, on n'avait pas étudié la philosophie classique... On avait directement commencé par la philosophie marxiste-léniniste, en critiquant les capitalistes, en lisant les Karl Marx, en disant les impérialistes, etc., etc. Le communisme, c'était quelque chose. on apprenait la philosophie aux jeunes, aux enfants, depuis le bas âge, parce que c'était la seule philosophie qui pouvait contrer les forces de marxiste-léniniste. Mais par la suite...
On leur apprenait des chansons aussi.
On apprenait des chansons, dont notamment « Quand passent les cigognes ». Et voilà, on apprenait des chansons, on avait des récitations, on chantait les noms des dirigeants des républiques communistes de l'époque. Nous avons applaudi Ceausescu, on a applaudi Kim Il-sung, on a applaudi tous les dictateurs, ils venaient au Congo-Brazzaville. Et la chance que j'avais, c'est que je peux aujourd'hui être peut-être dans le paysage littéraire français le seul qui ait croisé les plus grands dictateurs du monde. Voilà, donc... quelqu'un était venu me demander, mais attends, mais dans ton livre, là, tu es allé applaudir Ceausescu? Oui, parce qu'on était les enfants de la révolution, on nous appelait les pionniers du mouvement, le mouvement national des pionniers. On était habillés en kaki et on avait des foulards rouges. Et on nous alignait tout le long de l'aéroport pour voir passer les présidents et il fallait applaudir.
C'est très bien décrit dans le
livre. Voilà, et il fallait applaudir. À certaines filles, on demandait de pleurer pour dire que la joie était tellement intense de voir Ceausescu qu'on pleurait. Donc, on faisait des répétitions. Il y en a qui faisaient des répétitions pour pleurer. Il y a d'autres des répétitions pour avoir de la transe. Et il y a les autres qui faisaient des répétitions pour tomber dans les pommes. Voilà.
Bon, et je vous rappelle que la question initiale, c'était le rôle de la philosophie. Hein,
ça, c'est la philosophie. C'est ça, mais ça c'est la philosophie, parce que les gens détachent toujours la philosophie de la réalité. La vraie philosophie est celle qui s'applique dans la vie. On a toujours vu la philosophie comme une petite science qui est au-dessus du ciel et puis réservée à quelques gens qui ont une barbe qui balaie la poussière. Il y a toujours la philosophie dans la vie africaine. Le fait même d'aller là-bas, on avait ce qu'on appelait l'idéologie. L'idéologie communiste fait partie de la philosophie. On expliquait deux choses. Que dans la philosophie marxiste, ce qui comptait, c'est ce qu'on appelait l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est économie, tout ce qui est l'argent. Et la couleur idéologique d'un pays, d'une nation, dépendait de la couleur de son économie. Si votre économie était une économie de distribution du capital, de répartition dans la population, vous étiez communiste. Si vous aviez une distribution qui était plutôt individuelle, vous étiez capitaliste. Ce qui comptait pour les Congolais, c'était ce qu'on appelle la superstructure, c'est-à-dire l'idéologie en tant que telle. Et c'est cette idéologie qui faisait qu'on devait nous aligner pour nous endoctriner.
Alors, on voit qu'il y a des figures tutélaires pas forcément choisies chez Alain Mabankou. Chez vous, Mathieu Mejvan, il y a une figure tutélaire comme ça, un philosophe qui a compté plus qu'un autre.
Karl Marx. Oui. Ça aurait été tellement beau qu'on puisse développer justement là-dessus. Mais non, pas du tout Karl Marx, alors malheureusement. Non, ni Marx, ni Lénine, ni rien, ni. Ça va être une réponse un tout petit peu plus courte, mais non.
C'est bien. Voilà. Ça me permet d'en poser une autre.
Beaucoup.
Non, mais ça me permet d'en poser une autre, parce que effectivement, comment se dis-tu dans la vie, on va se dire, tu es sur la scène. Tu parlais tout à l'heure de ce qu'il reste des mots. Cette réflexion littéraire et philosophique sur le drame de Sierre, qui a publié en 2013. Pourquoi avoir choisi, déjà d'avoir choisi ce thème du drame de Sierre, dont tout le monde se souvient, hein, ce cas. Avec des enfants qui est rentré dans le pilier du tunnel. Pourquoi avoir choisi d'abord ce thème et pourquoi avoir choisi de le traiter sous l'angle et philosophique et littéraire, parce que ce livre est très littéraire.
Parce que pourquoi déjà ce thème? C'est parce qu'il permettait de poser des questions. Enfin, c'était pas un prétexte, mais c'était une bonne manière d'approcher une thématique qui est qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui ne dit rien. C'est-à-dire quand il se passe une chose aussi terrible qu'un accident de car avec des enfants malheureusement qui décèdent et qu'il n'y a aucune cause physique ou tangible, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous sont suisses, vous vous souvenez, puisqu'on en a tellement parlé dans les médias, c'était pas le chauffeur qui avait bu, c'était pas un problème de route ou de crevaison ou de vitesse excessive, il s'est pas endormi, il venait de commencer à conduire, enfin il y avait aucune cause pour cet accident, aucun coupable, rien à dire de direct sur ce fait tragique. Donc, puisqu'on ne peut rien en dire, c'est bien que à la fois la littérature et la philosophie peuvent ou devraient pouvoir s'en emparer. Donc c'était tout l'origine du livre, c'était puisqu'on on n'a pas de cause physique, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter, non pas de trouver des causes métaphysiques, mais plutôt une réflexion métaphysique sur ce genre de choses qui nous arrivent tous, auxquelles on est tous forcément confrontés d'une manière ou d'une autre, j'espère de manière moins tragique que celle-ci, évidemment. Mais évidemment que chaque fois dans nos vies, on a des moments où aucune explication rationnelle ne va pouvoir combler l'espèce de vide que tout à coup on ressent face à une situation, la perte d'un proche, une maladie, enfin tous les drames qui traversent nécessairement une vie. Et donc ce drame de Sierre, pour moi, c'était le point de départ à une réflexion philosophique, pour le coup, de ce type.
Je vais rester encore un peu sur la philosophie avec vous, Alain Mabankou, parce qu'en 2012, vous publiez le Sanglot de l'homme noir, qui est en fait une réponse à un philosophe, à Pascal Bruckner, et au Sanglot de l'homme blanc.
Oui, mais parce que j'avais emprunté le titre. Quand vous empruntez le titre de quelqu'un, il faut lui écrire. Donc j'avais écrit à Pascal Bruckner, bonjour, vous avez écrit le Sanglot de l'homme blanc, je suis en train d'écrire le Sanglot de l'homme noir. Et là, il m'a dit, ah, mon cher ami, vous allez rentrer dans des problèmes parce que mon propre livre m'a causé autant de problèmes. Bon, ce n'était pas directement une réponse, mais c'était simplement l'analyse de certaines questions qui se posent avec les Noirs de France, parfois tiennent un discours d'abattement, un discours victimaire. J'étais en train simplement de leur dire que le présent est parfois plus important que les rancœurs que nous avons dans le passé. Je ne vais pas continuer chaque fois à taxer un Allemand de nazi, même celui qui a mon âge, il n'a même pas fait l'époque du nazisme, mais il est considéré comme coupable tout simplement parce que ses ancêtres ou ses grands-parents étaient à l'intérieur. Donc c'était un livre de réflexion sur la condition de l'homme noir, ce qui est important puisque je vis entre deux cultures. J'ai continué à vivre en France 3-4 mois par an, mais le reste du temps, je suis aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai vécu d'abord dans le Michigan, à Détroit, où il y a les Noirs américains, avec les problèmes de salaire, avec les problèmes de travail, la fermeture des usines, la drogue, la cocaïne, le casino. Hein, ça, c'est important. Quand j'allais dans le casino...
Quelle drogue ?
Voilà, dans le casino, je rentrais dans le casino de Détroit. Il y avait à peu près 95% des personnes qui étaient là étaient noires. J'avais fait un exemple. Je me suis dit, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Je suis arrivé. Ils étaient mais vraiment épileptiques devant les machines. Donc, c'est un livre aussi pour faire le bilan sur cette question. C'est important aussi que nous autres, les écrivains, de temps en temps, sortant de la fiction, qu'on puisse s'emparer des sujets de société.
Et parfois, on s'empare de sujets dans la société, comme vous l'avez fait en refusant de participer au projet d'Emmanuel Macron, projet de réflexion autour de la langue française et sur la francophonie. J'ai le sentiment, Alain Mabankou, qu'au fur et à mesure que le temps passe, vous avez de plus en plus de convictions. Alors, vous les aviez peut-être déjà, mais vous les affirmez davantage et vous prenez davantage position. C'était très courageux de dire non à Macron et de le dire avec la lettre ouverte que vous lui adressez. C'est assez sévère.
Oui, je sais que le président voulait bien qu'on travaille à côté, que je travaille avec Leïla Slimani pour la rénovation de la francophonie et de la langue française. Donc, c'était un projet bien taillé. Mais moi, ce qui me gênait dans cela, c'était peut-être le concept de la francophonie et puis la part de la France dans le désespoir des populations africaines. Je pense que quand des nations sont libres, comme la France, comme la Belgique, comme l'Angleterre, quand vous avez bénéficié de cette liberté, vous avez fait des combats, la révolution de 1789, etc., etc., le siècle des Lumières. La moindre des choses pour des nations développées et démocratiques, c'est d'accompagner celles qui sont un peu en train de boiter. Mais j'ai l'impression que les libertés aujourd'hui que l'Europe a, elle les garde pour elle-même, avec ses problèmes aussi, hein, parce qu'en Europe, c'est pas une promenade de santé, hein. On en trouve dans les rues, hein. Parfois c'est plus malheureux ici, parce que je préfère être un malheureux en Afrique qu'un malheureux en Europe. Surtout le blanc, quand il est sur le trottoir, il ne bénéficie même pas de l'hospitalité traditionnelle qu'il y a en Afrique. Donc moi j'avais été dit que en Afrique, toute cette jeunesse, elle me connaît, toute cette jeunesse, je la croise certains dans les collèges, dans les lycées, certains de mes livres sont au programme. Au Bénin, ils ont verre cassé, au Congo, etc. Ils vont voir le grand frère aller là-bas, ils vont attendre des résultats. Mais moi, je connais la démagogie de la politique française. Je ne veux pas être l'instrument de cela. Pourquoi on va faire la francophonie ? On va convoquer une maghrébine et un africain, parce que la francophonie, ça ne concerne pas les blancs. Mais il fallait qu'on prenne un petit Suisse, on prenne aussi, excusez l'expression, on prenne un petit Français, on prenne qu'on fasse une vraie famille. Dans, même dans la formation de ces cabinets, il y avait déjà l'idée que la francophonie, c'est ceux qui sont à l'extérieur. C'est ceux qui écrivent avec un accent. Ce sont les Noirs, ce sont les Arabes, ce ne sont pas les Blancs. Je sais que j'avais demandé à Emmanuel Kérad...
Les Belges n'avaient pas une chance, là, une fois, avec leur accent ?
Ah, les Belges, bien entendu. Ah non, les Belges, c'est des gens bien, ils sont civilisés. Ah non, 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 non. Si vous provoquez les Belges, c'est les seuls qui hébergent tout Kinshasa à Matongé.
Exact.
Voilà.
D'ailleurs, Matongé, c'est un quartier de Kinshasa. Et il y a un quartier de Matongé à Bruxelles.
J'ai jamais vu les Belges faire des reconduites à la frontière des Aïrois. Jamais. Parce qu'ils savent.
Ils n'ont pas intérêt.
Mais ils n'ont pas intérêt parce que le roi des Belges, les Aïrs, c'était sa résidence secondaire. Donc, voilà. Une résidence secondaire qui est 32 fois plus grande que le pays. Voilà. Donc, il faut le faire. Hein. Voilà.
Oui, mais avec des richesses qui sont bien plus grandes que celles du pays aussi.
Ah, ben voilà. Et quand il est
mort. Mais ça continue, cela dit. Les Belges sont très présents dans l'ex-Zaïre.
Ah oui,
encore aujourd'hui.
Ils sont toujours présents. Donc, le refus, ce n'était pas par coquetterie. Mais aussi, je ne voulais pas décevoir cette jeunesse. Je sais où en sont-ils depuis ces déclarations. Zéro, on a prévu une maison de la francophonie, elle n'est pas là. Le budget, moi je discute avec Slimani, il n'y a pas de budget. Ce sont des paroles, des opérations de communication. Bien entendu, quand on avait dit à la radio que j'allais travailler avec le président Macron, j'ai dit non. Mes cousins, mes tantes m'ont appelé. Ah, mais ça va ? Je dis oui, ça va. Hein ? Il dit, mais tu es fou ? J'ai dit non, 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 je ne suis pas fou. Il dit, mais comment tu peux refuser un service que te demande un président qui est en plus est blanc ? Donc ça, c'est les étoiles, ils sont de l'époque. Et ils disent, mais tu n'as pas pensé à nous ? Parce que c'était le moment de placer tous tes cousins-là qui ne travaillent pas dans les francophones, voilà. Donc, ce qui m'a plus fait peur, c'était plus la réaction des cousins, parce que ils étaient dans la rue, ils allaient dans un bar, ils disent, nous sommes rentrés à l'Élysée, nous allons travailler à l'Élysée. Et 2 heures après, ils entendent, Alain Mabanko a refusé la proposition d'Emmanuel Macron, il y en a qui ne me parlent plus dans la famille, hein. Et ils m'ont dit, voilà pourquoi tu n'as jamais réussi dans ta vie. Moi, je dis, voilà.
Mathieu Mégevan, tu es auteur, comme on l'a dit, mais tu es aussi à la tête d'une maison d'édition, Labor et Fides, depuis 4 ans, maintenant 3 ans et demi. La position de l'écrivain dans la société, forcément, c'est quelque chose qui t'interpelle. Aujourd'hui, est-ce qu'un écrivain, il doit sortir du pur cadre de ses livres, prendre position quand c'est nécessaire ? J'ai l'impression que c'est de plus en plus nécessaire.
Non.
C'est bien ? Est-ce qu'on pourrait réanimer Yves Coppens, s'il vous plaît ?
Non, je rigole, mais je développe. C'est pour faire le contraste. Non, je pense pas du tout, vraiment. Je pense que c'est passionnant ce que tu dis sur tout ça, sur la francophonie, mais parce que, évidemment, t'as un rôle à jouer, donc t'as une aura, puis enfin, tu viens d'expliquer tout ça très bien. Mais c'est pas une condition nécessaire de l'écrivain. Qu'un écrivain s'engage, parce que déjà, on le met dans la sphère publique. Là, en l'occurrence, c'est le président qui fait une demande. Et là, donc, il faut bien y répondre, participer ou pas, qu'est-ce que ça implique politiquement, etc. Donc, là, c'est plutôt parce que ça vient de l'extérieur et de la sphère publique, mais qu'un écrivain doive nécessairement être engagé, tout ça, c'est le passé. Enfin, je dirais, il y a un temps, ben voilà, le temps.
Je dis pas nécessairement, hein, mais est-ce que c'est sa place aussi ?
Moi, j'aime pas. Enfin, en l'occurrence, c'est passionnant, hein, vraiment. Donc, c'est pas du tout. Si j'étais en désaccord, je dirais. Donc, vraiment, là, je trouve c'est passionnant, mais je suis pas trop fan du mélange des genres, du genre, vous voyez, ces chanteurs qui vont.
Les chanteurs, c'est un peu autre chose.
Ouais, enfin, voilà, c'est des gens aussi qui écrivent, qui sont des artistes. Que les artistes viennent se mêler un peu de tous les débats de société, comme s'ils avaient quelque chose à dire de plus intéressant qu'un autre. À part, évidemment, là, c'est aussi dans ton domaine de compétences, enfin, c'est différent. Mais je veux dire que parce que quelqu'un écrit, etc., ou est une position artistique quelconque, il est nécessairement quelque chose de politique ou même de sociétal à dire. Vraiment, je pense pas. Et souvent, on entend des choses et, dont on se passerait bien, y compris d'écrivains dont c'est le sujet de prédilection. Enfin, c'est pas pour attaquer quelqu'un en particulier, mais souvent, j'entends des choses, par exemple sur l'islamisme, etc., qui, moi, me désespèrent un petit peu de la part d'écrivains dont c'est pourtant le... non pas le fonds de commerce, mais en tout cas, de livre en livre, ils traitent ces sujets, et je trouve qu'ils sont pas très intéressants dans la manière de les traiter, et puis ensuite de les développer dans la sphère publique. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, évidemment.
Mathilde dit est intéressant, parce que ça ne doit pas être un sujet qu'on choisit. Ouais. L'engagement n'est pas... je n'ai rien à faire le dimanche, je vais essayer de m'engager pour qu'on m'entende. L'engagement, ouais, c'est quelque chose que vous vivez à travers votre existence. Moi, je viens d'un pays qui a le même président depuis 34 ans. C'est différent.
Ouais,
voilà, je viens d'un pays où je suis interdit de ce jour parce qu'on pense que j'intoxique la jeunesse, que c'est pas normal que les jeunes écoutent celui qui n'est pas ministre, parce que quand je leur dis n'allez pas à tel endroit, ils vont pas. Si, à la rigueur, si j'écris un tweet lundi pour manifester que le président n'est pas légitime, n'allez pas au travail, il y en a qui ne vont pas aller au travail. Donc il y a des parents qui souffrent, la crise économique qui est là. Mais je ne choisis pas ces sujets, j'ai plutôt l'impression que ce sont ces sujets qui choisissent. Mais je ne conditionne pas mon écriture par rapport à cela. J'ai toujours eu une patience dans ce que j'écris. Ça découle. C'est, à la fin, peut-être que quand je n'existerai plus, peut-être quand on va placer les livres, on retracera pratiquement une certaine existence. Je ne vais pas dire, bah, tiens, aujourd'hui, il y a des islamistes qui ont attaqué là, ça ferait un beau sujet de la rentrée littéraire, et me voilà 400 pages, et la semaine prochaine, c'est les Bretons qui veulent la sécession. Ah ben tiens, je le fais. Et puis de l'autre côté, les Flamands, chez vous là-bas, qui sont en train de s'étriper, je ne sais pas, à la place royale, tiens, je le mets. Donc il y a cette... L'engagement n'est pas un mot d'ordre. Même un écrivain qui écrit sur la rose, sur la neige, il s'engage forcément. Il rappelle la beauté des choses ordinaires qu'on ne voit pas. Il pousse quelqu'un à agir. Moi, je pense que, comme disait l'écrivain congolais Sonny Laboutansi, on n'a pas besoin des écrivains engagés, on a besoin des écrivains engageants. Le participe présent continue. Engagé, c'est déjà définitif, c'est dans le passé. Je suis engagé, bon, c'est bon, mais engageant, c'est en perpétuel mouvement. J'écris sur ce qui répercute en moi sur la société. Je ne peux pas écrire sur Mars, parce que je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, et puis ce n'est pas mon truc. Il y a des gens qui font des science-fiction qui le font mieux que moi. Donc c'est dans ce sens, peut-être, que Mathieu voulait élaguer le sentier.
Et puis en plus, ce qu'il y a à dire, qui est... c'est pas on m'a des faveurs, mais c'est ce que tu rappelles, c'est que moi je suis un petit blanc bourgeois qui habite en Suisse, donc nécessairement...
Ah, je savais pas que tu étais bourgeois là.
Si j'habite en Suisse, c'est comme un pléonasme.
Justement j'ai un découvert là, il y a pas moyen.
on discute après Alain.
Ben j'ai un bourgeois pour la première fois de ma vie à côté.
Ah ouais.
Voilà. Ici t'as dû en rencontrer pas mal, je pense.
Regarde bien les photos de Marx et Lénine en face de toi là.
D'habitude, les bourgeois sont plus âgés, sont plus... Oui. Voilà, non, mais là, il y a un jeune.
Non, hein. En Suisse, on commence tôt.
Il va être bourgeois très longtemps. Il est très jeune, hein, donc...
Ma condition peut changer, cela dit.
On lui souhaite que ça se poursuive, oui, effectivement. Mathieu, j'aimerais prolonger ce que vient de dire Alain avec le métier d'éditeur. Quand tu publies la bio de Martin Luther King, excellente bio, d'ailleurs, chez Labor et Fides, c'est aussi une manière d'engagement.
Oui, évidemment, en tant qu'éditeur, mais donc ça, c'est l'auteur qui vient avec sa préoccupation, son sujet, etc. Ensuite, moi, je choisis de le publier ou pas. Donc là, voilà, en tant qu'éditeur, alors là, la réflexion, elle est totalement différente. Par exemple, je publie aussi à la rentrée, ça n'a aucun rapport, mais un manifeste antispéciste, donc, puisque c'est un sujet de société actuellement très fort. Et ça, moi, ça m'intéresse, en tant qu'éditeur, de proposer des textes qui reflète ces préoccupations de société avec, j'espère, des réflexions un petit peu intéressantes ou nouvelles ou originales qui permettent d'alimenter le débat. Alors ça, c'est le rôle, en tout cas, d'une maison d'édition comme la mienne, petite, mais qui produit entre 25 et 30 livres par an, dont certains doivent vraiment être implantés dans la société sur les sujets qui reviennent tout le temps depuis des années maintenant.
Oui, oui. Je reviens à ton travail, Mathieu. En 2016, tu publies un récit autobiographique, Les Lueurs. Pourquoi avoir choisi d'abord l'autobiographie et le récit pour raconter un épisode de ta vie assez fort, qui probablement a encore des répercussions aujourd'hui?
Oui, je développe. oui, donc le livre que j'ai publié en 2016, c'est le récit, mais pas du tout fictif, donc autobiographique d'une maladie que j'ai eue 10 ans plus tôt. Maintenant, ça fait 15 ans plus tôt, mais à l'époque où je l'ai écrit, c'était exactement 10 ans après. Pourquoi en parler et pourquoi sous cette forme? Ça s'est vraiment un petit peu imposé quand même comme une nécessité, c'est-à-dire que après.
Faut peut-être juste dire de quelle maladie il s'agissait. Un
lymphome de Hodgkin, c'est un cancer des ganglions. C'est une maladie, enfin, et là, c'est une maladie de jeunes, quoi, que les gens attrapent, les rares personnes qui l'attrapent, hein, c'est très rare, ont entre 10, ouais, la vingtaine, quoi. Et moi, je l'ai eu à 21 ans, exactement.
Mais on n'en réchappe pas toujours.
Pas toujours. Très souvent, il faut quand même le dire, donc c'est le taux de rémission est de 90%, donc c'est quand même élevé, mais ça fait quand même une chance sur 10. Donc évidemment, une chance sur 10, si vous le mettez dans le mauvais sens, ben, c'est pas très bon pour vous. Et donc voilà, j'ai eu ça comme, c'est pas spécialement que c'est un événement plus important que d'autres événements qui arrivent à tout à chacun, mais simplement pour moi ça me paraissait intéressant, 10 ans après, à la fois il y avait la nécessité sans doute d'y revenir et puis essayer d'évacuer ça, mais aussi, puisque le prisme du texte était de ne travailler que sur le souvenir, c'est-à-dire que j'ai questionné personne, ni les médecins, ni mes proches, ni tous les gens, bref, qui ont participé involontairement, mais qui ont été à l'époque proches de cet événement. Je me suis mis à ma table et j'ai fait bouillir le sucre, quoi, de ce moment-là.
Ce qui a surpris pas mal de gens de votre entourage quand ils ont lu le livre.
Oui, parce qu'ils ne savaient pas du tout que je travaillais là-dessus. Et puis, évidemment, pour eux, ça faisait remonter beaucoup de choses qui étaient peut-être enfouies et aussi des choses qu'ils ont vécues totalement différemment. C'est ça qui était intéressant pour moi dans la démarche là, littéraire. C'était que le souvenir, évidemment, déforme, détruit, réagence. Et 10 ans après, ce qui est resté de ça... Et pas nécessairement, enfin c'est même certain que c'est pas ce qui est arrivé objectivement, mais c'est voilà ce qu'il en est resté. C'est ça qui m'intéressait aussi. Ouais.
Alain Mabankou, ceux qui connaissent votre travail savent que vous avez un double fictif, Michel, un double romanesque. Michel qui est la figure centrale des Cigognes sont immortels. Est-ce que vous vivez la même chose que Mathieu, c'est-à-dire que les gens qui vous connaissent au pays, quand ils lisent les aventures de Michel, ils se disent. Ah, il a vu les trucs comme ça, il a vécu les choses comme ça. Est-ce qu'ils sont surpris parfois ?
Ils sont plutôt surpris pour dans le sens des détails. Parce que les Cigognes sont immortels se passent dans les années 70.
Et très exactement, sur 3 jours de mars 77.
Voilà, le roman est divisé en 3 jours, hein, le 19, 20... et 21 mars 1977. Donc c'est un roman de 3 jours sur 300 pages.
Voilà. Donc la veille, le jour même et le lendemain de l'assassinat du président.
Donc tous les éléments qui sont à l'intérieur partent de la réalité. L'histoire du Congo, l'histoire des relations avec la France, avec le reste du monde, tout cela est réel. L'histoire de la famille aussi, en quelque sorte, épouse la mienne, puisque Michel, comme moi, est fils unique. Bon, les vrais noms sont les noms de mes parents. Oui. Papa Roger, c'est le nom de mon père. Maman Pauline, c'est... Donc, nous sommes dans une cellule familiale, y compris même l'assassinat du président Marien Ngouabi, qui va se perdre en 77, va retomber sur la famille. On croyait que quand on assassine quelqu'un, peut-être à Bordeaux, ça ne concerne pas les Parisiens, mais ça a perturbé le commerce de bananes de ma maman. Parce que ma mère dit, on a assassiné le président, je ne peux plus prendre le train, je ne peux plus vendre, je peux plus livrer mes bananes au marché,
etc. Et puis en plus de ça, il y a une épuration des proches du président et il y a,
le frère de maman Pauline.
Qui est assassiné
et qui constitue d'ailleurs la trame même.
Hein. Absolument.
Ce que je voulais plutôt montrer même aux Congolais, c'est ce courage de la femme africaine qu'ils connaissent. Cette maman qui est là, on a l'impression que c'est les hommes.
On ne va pas raconter la fin, hein, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement courageuse et elle va jusqu'au bout de ses convictions.
Voilà, elle est, parce qu'on n'a jamais vu peut-être dans... Il y a toujours une certaine timidité auprès des auteurs qui viennent du continent africain de mettre... la femme dans une position pratiquement de démolisseuse. On a toujours tendance à couver, à faire des choses. Mais moi, je voulais montrer ma propre mère telle qu'elle était. C'est quelqu'un qui pouvait avoir une abondance de bonheur, de rire. Et quand elle était en furie, je crois que mon père et moi, on cherchait où aller. Moi, j'ai fréquenté les bars très tôt à cause de la colère de ma mère, hein, parce que.
Il y a les colères, mais les tristesses aussi. Elle peut avoir des tristesses insondables.
La colère la plus frappante, qui est au début du livre, c'est qu'au bout d'un moment, je suis assis, Michel, vous voyez, lapsus, je suis assis à côté, au pied de l'arbre où mon père m'expliquait un peu l'actualité internationale. On écoute la radio Grundig parce que depuis 3 jours, mon père ne comprend pas, il n'y a pas les informations, on ne dit rien à la radio, il n'y a que la musique russe qui est en train de passer.
Musique soviétique.
Soviétique. Dont les cigognes, donc quand passent les cigognes, d'où le titre Les cigognes sont immortelles.
Vous la connaissez encore la chanson?
Non, c'était.
Allez,
je l'ai chantée il y a longtemps. Hein. Je vais pas.
Les deux premières phrases.
Je vais pas polluer. On le chantait en russe, donc ne vous en faites pas.
Allez. Vous savez, vous comprenez le russe, vous le parlez?
Ben, il y a Gavaru Paruske, vous n'y êtes Gavaru Tcheparuske.
Rien du tout, moi.
Voilà. Donc, si vous voulez, on peut faire l'interview en russe. Et
ça,
puis,
ça va être difficile, voilà. À mon avis. Hein.
Donc, c'est cette colère, peut-être, qui a poussé le roman. On est assis, on écoute la radio, on n'a pas faim parce qu'on veut savoir pourquoi il y a la musique depuis 3 jours. Et ma mère a préparé le plat le plus succulent de la terre. La viande, tout est là, la pâte d'arachide, le manioc. Je sentais déjà depuis là, j'avais fait les calculs par où je vais commencer à manger. Et quand il nous dit « Venez manger », mon père, « Non, Pauline, on attend parce qu'ils vont quand même dire quelque chose à la radio. » Et au bout d'un moment, elle prend la marmite, elle arrive, elle balance toute la nourriture à côté de la radio.
Ce qui va faire le bonheur du chien.
Et elle appelle le chien « Mboa Mabé ». En lingala, ça veut dire « chien méchant ». Mais il n'est pas méchant. Le chien arrive. Le chien est étonné parce que jusqu'alors, il mangeait les ossements. Le chien regarde vers ma mère. Ma mère popine du chef. Le chien regarde vers nous. On fait comme ça. Mais le chien hésite. Donc, il a fait comme ça. Au bout d'un moment, il remue quand même. Il a écouté ma mère puisqu'il dit « Mboa Mabé, mange-moi ça ». Et le chien arrive. Il commence d'abord par manger autour, se réservant pour plus tard les gros morceaux. Et au moment où il mange, la radio commence à parler. On entend quelque part, le président Marien Ngouabi a été assassiné à 14h30 par les impérialistes et leurs valets locaux. Alors là, ma mère dit, les valets locaux, le chien entend ça, les oreilles se dressent et il s'enfuit. Et tout le roman, le petit, l'adolescent, il part à la recherche du chien et les adultes, ils veulent savoir qui a tué le président Marien Ngouabi. Donc, c'est cette colère-là, peut-être, quand j'y pense, c'était une colère nécessaire qui a poussé à l'écriture du roman aussi.
Je disais tout à l'heure que j'avais le sentiment que vous étiez de plus en plus engagé et ferme sur un certain nombre de questions. Et c'est vrai que dans ce roman-là, beaucoup plus que dans les autres, vous revenez sur les indépendances, sur les problèmes de l'indépendance, sur la colonisation, sur la non-décolonisation. Vous parlez même du conflit israélo-palestinien très rapidement, mais vous en parlez. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin de dire des choses qui ne sont pas réglées.
Il y a un besoin de dire des choses qui ne sont pas réglées, parce que si aujourd'hui en Europe on a les chocs des cultures africaines contre celles de la France, de la Belgique et autres, c'est parce que, par exemple, en France, on n'a jamais posé la question coloniale. On n'a jamais discuté ça de manière apaisée. On a toujours évité. La France va être contente d'avoir colonisé parce qu'ils croyaient que nous étions dans les ténèbres, que les Noirs avaient une malédiction atavique. Donc, ils ne pouvaient pas réfléchir, ils n'avaient pas d'intelligence, etc. Et les Africains, certains, ont avalé cela. Mais maintenant, quand on décortique l'histoire à travers la vie des individus. Moi, je ne raconte pas l'histoire comme un professeur d'histoire, je la raconte comment les gens vont la vivre. Et certains vont se dire, mais on ne savait pas que l'histoire du Congo pouvait avoir des répercussions sur l'histoire mondiale. Nous, quand on ouvrait la radio, on écoutait ce qui se passait. Quand il y avait un grand événement qui concernait le président, et qui, comme l'assassinat, on n'en avait pas parlé pendant 3 jours. On nous disait tout. Il y a même un passage où on parle plutôt d'un match que jouait l'équipe d'Angleterre contre la Suisse.
Ouais.
Ouais. Contre la Suisse.
Et votre père disait que la Suisse pouvait tout gagner parce qu'avec l'argent qu'il y a en Suisse, il pouvait acheter tous les arbitres.
Voilà. Alors, mon père dit de toute façon, les Suisses vont gagner, ils peuvent acheter les arbitres. Donc, on nous mettait les trucs de la Suisse, les trucs, tout, pour camoufler l'information. Et donc, en racontant la vie du petit peuple, j'ai compris en fait que je suis en train de raconter la grande histoire. Parce que la grande histoire, c'est quoi? C'est l'addition des petites histoires. Et ma mère dit à l'intérieur, pour gagner les grandes batailles, il faut déjà commencer par gagner les petites. Donc moi, j'ai additionné les petites histoires qui ont l'air des anecdotes. Et à la fin, ben, ça a recroisé peut-être la lecture de l'histoire contemporaine entre l'Afrique et l'Europe.
Ça fait une très bonne transition avec le tout récent roman de Mathieu Mechevant qui sort pour cette rentrée chez Flammarion. La bonne vie, s'appelle-t-il ? Titre très philosophique par ailleurs. Une biographie romancée d'un poète qu'on a un peu oublié, Roger Gilbert Lecomte. Qu'est-ce qui vous a amené chez Roger Gilbert Lecomte ? Pourquoi s'être intéressé à ce garçon ? Assez spectaculaire quand même.
Assez imposant et totalement oublié, effectivement, ou presque oublié. Moi, je suis tombé dessus par hasard par quelqu'un d'autre, un chanteur que toi tu connais, je pense, qui s'appelle Daniel Darc, oui. À qui le livre est dédié. Daniel Darc, il est mort maintenant. C'était un rocker français récent que j'avais rencontré.
Qui a un peu brûlé sa vie, comme ton poète.
Totalement, et en fait, le lien s'est fait comme ça, parce que à l'origine, en fait, ce projet, c'est une trilogie que je suis en train de faire, dont voici le premier livre, La Bonne Vie. Sur un poète, le deuxième c'est sur un peintre, le troisième c'est sur un musicien.
Et trois vies brûlées ?
Et trois vies brûlées, puisqu'en fait c'est une trilogie libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct, c'est pas la même histoire racontée.
C'est pas la suite.
C'est pas du tout une suite, c'est trois vies qui ont pour point commun à la fois une articulation forte entre création et destruction.
Donc c'est un triptyque.
C'est un triptyque en fait, ouais, ou une trilogie libre. J'ai appris qu'on pouvait appeler ça comme ça également. Mais donc ouais, effectivement. Et le qui s'appelle Créer, détruire, tout simplement, qui est en logo à la fin de chaque livre, enfin qui sera en logo à la fin de chaque livre et qui est à la fin du premier. Et ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de comprendre ou de travailler, de chercher le lien qui existe entre création artistique et destruction intime, personnelle, etc. Donc le premier, c'est ce poète, Gilbert Lecomte, qui est né en 1907, qui est mort en 1943 à 36 ans. Le deuxième, ce sera le peintre Toulouse-Lautrec, qu'à peu près tout le monde connaît. Et le troisième, ce sera un musicien contemporain vivant. C'est pas encore assez établi pour dire qui c'est.
Oui, il est prudent, le garçon, il a raison.
Ouais, c'est trop tôt. Ouais. Mais donc Gilbert Lecomte, je suis tombé dessus par hasard grâce à ce chanteur Daniel Darc. Et c'est pas un prétexte, parce qu'ensuite son œuvre m'a beaucoup plus touché, intéressé et passionné. Mais c'est aussi une figure qui, pour moi, explicitait et exprimait très bien cette trajectoire d'étoile filante qui se brûle complètement, mais pour son art. C'est pas simplement une brûlure de quelqu'un qui se détruit comme il y en a hélas énormément. C'est vraiment lié intrinsèquement à sa quête esthétique, artistique et existentielle. Et donc c'est cette histoire-là, ce roman-là de cette vie que j'ai voulu raconter.
C'est un très beau livre, hein, honnêtement. Il est très réussi. Et je me suis demandé quelle était l'importance pour toi d'être un passeur, c'est-à-dire ce poète qu'on a oublié. Quelle était l'importance de nous dire à nous qui l'avons totalement oublié, intéressez-vous à ce garçon, même si sa vie a été extrêmement turbulente et compliquée.
Parce que sa vie a été turbulente,
oui,
justement.
Aussi,
ça
aussi,
c'est pour ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on comprend pas sa poésie. Alors certains lecteurs, etc., qui sont déjà venus me parler ou bien critiques, m'ont dit qu'ils préféraient l'histoire de la vie de sa vie telle que je l'avais racontée que les poèmes qu'ils étaient allés lire ensuite, parce que c'est quand même quelqu'un de son époque, donc des années 20-30, qui était proche des surréalistes, etc. Donc il écrit de la poésie et des textes
qui étaient proches, mais très en contradiction à la fin avec les surréalistes.
Oui, parce qu'en fait il vient juste après les surréalistes. Donc quand les surréalistes apprennent que ce poète avec un groupe fonde une revue qui s'appelle Le Grand Jeu, les surréalistes et André Breton, qui est le pape de tout ça, veut les mettre derrière lui en disant bon, ce que vous faites c'est très bien, vous êtes gentils les jeunes, mais le roi c'est moi et tous derrière, quoi. Et évidemment ces jeunes gens là ils ont, et Gilbert Lecomte en particulier, ils ont évidemment aucune envie d'être un féodé ou affilié ni à un parti politique ni à un groupe littéraire particulier, etc. Donc évidemment il y a un conflit qui va naître entre eux. On se souvient beaucoup plus de Breton que de Gilbert Lecomte, mais en fait à leur époque, ces gens du Grand Jeu et Gilbert Lecomte ont presque rendu les surréalistes ringards d'une certaine manière, parce qu'ils disaient, en gros, le cadavre exquis, l'écriture automatique, toute cette... vous êtes bien gentils, mais on peut faire mieux, on peut aller plus loin encore dans la quête que vous prétendez mener. Et eux, ils l'amènent, mais évidemment, ils l'amènent tellement fort, tellement vite, tellement loin, qu'ils se brûlent. Et donc Gilbert Lecomte, il est toxicomane et il meurt à 36 ans, complètement oublié, il écrit plus, il est dans la déchéance, il est pauvre, etc., parce qu'il a poussé ça tellement fort, tellement vite que il se brûle, quoi.
Ce qui est très étonnant, c'est que malgré cette déchéance, malgré les excès d'héroïne, de cocaïne, d'alcool, son père continue à lui verser une pension régulière tous les 15 jours, ça tombe.
Tous les mois, mais c'est... je trouvais ça à la fois très beau, très fort et très triste. C'est-à-dire que l'homme, il vit vraiment, alors on peut pas lui... il n'a pas vécu les choses à moitié, hein. Il est allé vraiment au bout, on ne pourra pas lui reprocher ça. Et c'est un toxicomane avec tout ce que là le pathétique de l'addiction peut amener, c'est-à-dire des gens qui vous disent 15 fois qu'ils vont arrêter, le père lui paye des cures de désintox, etc. Et évidemment, comme très souvent dans la toxicomanie, ça n'y change strictement rien. Et il se brûle de plus en plus. Et le père, avec abnégation, continue de lui verser alors une toute petite somme qui lui permet à peine de vivoter, mais qu'évidemment le fils dépense en drogue et pas en loyer et en nourriture, ce qui fait qu'il tombe de plus en plus vite dans la déchéance. Et à la fin, je cite une lettre du père qui est terrible parce que c'est la toute fin et le père dit cette fois j'arrête, je peux plus t'aider, t'as voulu faire ton Rimbaud, et ça c'est une phrase qui va rendre fou le fils parce qu'il lui dit t'as voulu faire ton Rimbaud qui lui n'a pas été soutenu par sa mère du tout, qui a été complètement abandonné, enfin en tout cas qui n'a pas cherché à être aidé. En gros, t'as quand même encore cette espèce de fil petit bourgeois que t'as tant voulu rompre. Mais maintenant, c'est bon, j'arrête, je peux vraiment plus t'aider. Et il va mourir l'année d'après, et on saura d'ailleurs que 3 mois après sa mort, il hérite d'un 500 000 de sa tante, ce qui est un tout petit peu ironique. Ouais. Ce qui n'aurait rien changé, je pense, en fait. Oui, mais...
il l'aurait bouffé, probablement.
Ouais, il l'aurait bouffé en drogue, mais il aurait tenu, sans doute, quand même un peu plus longtemps. Mais ouais, ça, c'est évidemment un des hasards romanesques que j'ai mis dans le livre.
Je reviens à cette idée d'être des passeurs. Alain Mabankou, vous avez publié la lettre à Jimmy en 2007, passeur de James Baldwin, et puis il y a les 6 poètes d'Afrique francophone en 2009, là aussi, alors certains connus, d'autres beaucoup moins. C'est important aussi de faire revivre la mémoire de ces gens-là.
Oui, c'est important de faire revivre tous ces écrivains qui nous fascinent. Il y a toujours un bonheur de voir que quelqu'un qui était tombé dans le purgatoire, tout d'un coup en sort, et puis on peut le lire. Moi, j'ai fait ça pour James Baldwin, mais j'ai fait pour beaucoup d'autres écrivains dans mon essai Le monde de mon langage.
Absolument.
Hein, où il y a même des écrivains qui sont partis, qu'on ne lisait pas beaucoup. Tout le monde parlait d'Edouard Glissant, mais personne ne pouvait dire c'est quoi ces livres, ouais, puisque ce n'était pas évident d'y entrer. Hein. Césaire, c'est la même chose. Donc, je suis allé exhumer certains poètes malgaches comme Rabé Mananjara, Rabé Arivelo. Encore faut-il prononcer même les noms.
Rien que les noms,
c'est du boulot. Voilà, ouais. On oublie toujours une lettre. Donc, je les ai ressortis au point que j'étais parfois étonné que tout d'un coup, ça peut marcher. Parce qu'en 2007, quand j'avais publié Lettre à Jimmy sur James Baldwin, on ne lisait plus Baldwin en France.
Non,
on ne lisait plus Baldwin. J'ai écrit cette lettre à Jimmy et même les éditeurs disaient oui, mais bon.
Ça va intéresser personne.
On me disait c'est un livre de respiration. C'est-à-dire qu'en attendant le roman, tu respires. Ouais. Ben, à la fin, un livre de respiration est devenu un livre vraiment d'expiration.
De référence, hein,
ouais, donc, ouais. Ouais. On était dans une situation, Gallimard a réédité James Baldwin, ouais, puis le mouvement a continué, puis Raoul Peck a sorti le documentaire I'm Not Your Negro. Voilà, exactement. Il a sorti.
Ça fait beaucoup de bruit l'année dernière, tout ça. Hein.
Les éditions Stock ont ressorti les romans. On m'a même demandé de préfacer un de ces pavés. J'ai fait la préface pour Stock. Mm-hmm. Ça prend toujours du temps. Moi, je pense que les écrivains qui sont au devant de la scène, parfois, doivent un peu arrêter de calculer la circonférence de leur nombril et d'essayer quand même de rendre grâce à ces personnes qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Il n'y a pas de honte à être humain, à être généreux. Moi, je pense que quand vous êtes généreux, même si dans l'immédiat, vous n'en récoltez pas les dividendes, un jour, quelqu'un s'assoira au bord de la rivière, il dira, mais quand même, il a rendu hommage à celui-ci. Et parfois, ce qui restera de vous, c'est cette fibre de passeur. C'est bien d'être passeur, c'est bien d'être écrivain, oui, mais les écrivains, il y en a beaucoup. Les passeurs, il y en a combien ? Parce que les gens, quand ils ont leur espace, ils pissent autour. Hein. Personne ne rentre.
On appelle ça pisser dans les coins.
Voilà, il reste là et il est au milieu, quoi. Il veut tout avoir, quoi. Il veut avoir 4 fois le Nobel, 10 fois le Pulitzer. Non.
Le Nobel, cette année, c'est un peu foutu. Hein, mais...
on n'en a pas besoin de toute façon. Absolument. Donc, ce qu'il faut, c'est c'est aussi, quand vous avez une position quelque part, c'est de tirer les autres. Il ne faut même pas se soucier de l'ingratitude, parce que l'ingratitude existe. Hein, les jeunes romanciers qui te disent « Ah ouais, il faut m'aider. » Et quand il est au summum, il ne se souvient même pas. Voilà, il te dit plus bonjour. Il dit « Ouais, là, je n'ai pas le temps, il faut parler à mon attaché de presse. » Bon, il n'y a pas de problème, on va parler. J'en connais. Hein,
J'en
connais quelques-uns. On a poussé, on a même aidé à éditer. Tout d'un coup, ça sort. Ah non, c'est mon génie qui a fait ça. L'éditeur du seuil a trouvé le manuscrit. Voilà. Et il s'autoproclame les chefs de la nouvelle file de la génération.
Donc on a un indice, c'est au seuil. Hein,
donc... Non. Non, le seuil,
c'est ce que tu viens de dire.
Non, le seuil, c'est un éditeur carré.
Très bien.
Bah, attendez.
Mathieu voulait réagir.
Un exemple. Vas-y. Les plus grands prix français donnés à la francophonie sont venus du seuil. Édouard Glissant, La Lézarde, 1968, prix Renaudot. Yambo Ologem, prix Renaudot. Amadou Kourouma, prix Renaudot. Tierno Monenendo, prix Renaudot. Votre auguste serviteur, prix Renaudot. Ça fait quand même 5 dans une seule maison. À Gallimard, il y en a combien?
Je ne sais pas.
Il n'y a pas quelqu'un de Gallimard.
Flammarion, c'est un peu...
Ouais, tu voulais réagir, Mathieu?
Non, c'était juste par rapport à ce que tu disais avant. Pour moi, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait sur l'engagement. Alors là, l'engagement d'un écrivain, c'est ça. Vraiment, alors là, je suis tellement... Enfin, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que c'est tellement important pour un écrivain d'être passeur, je sais pas, mais en tout cas de dire qu'il n'est pas né comme ça de nulle part et que tout à coup il débarque. On a forcément des filiations et on a des dettes. Moi, je pense que c'est en ça qu'on doit être engagé. C'est essayer, tenter. Alors, ça peut être un poète méconnu, quelqu'un de très connu, peu importe. Mais la générosité de l'écrivain et de l'artiste en général, parce que ça vaut pour les autres arts également, c'est de pouvoir dire, voilà, il y a tellement de prédécesseurs qui ont compté, voilà lesquels, ceux-là, vous les connaissez peut-être, ceux-là, sans doute pas, et justement, de s'effacer et d'essayer de produire des textes dans lesquels on leur rend hommage, mais pas seulement hommage du genre, regardez cette vieille statue comme elle était belle, c'est vraiment, il faut réussir à les faire lire, etc., comme pour Baldwin et pour d'autres, et d'être capable de susciter l'envie de la lecture de personnes, voilà, oubliées, ou même pas nécessairement, mais... Ouais, qui sont pour chaque écrivain, on en a tous des dizaines forcément, des figures comme ça, bon, à qui on doit tellement, et c'est pour moi, effectivement, c'est ça l'engagement indispensable de tout écrivain, et autrement ça relève alors de l'ingratitude, si on se sent tout à coup comme ça sortir de nulle part et qu'on ne doit rien à personne si ce n'est à son propre génie, mais c'est inquiétant si quelqu'un dit ça, effectivement.
Le génie ne vaut rien, il faut bien que le génie soit sponsorisé. On peut rester avec son génie à la maison, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui dit « ça c'est génial, il faut que j'apporte la nouvelle jusque derrière les montagnes », ça ne veut rien. Vous allez rester avec votre génie, vous mourrez avec ça et personne ne le saura. Mais c'est pour ça que moi, quand je vais dans une radio, par exemple, je tiens à saluer les techniciens qui sont derrière. Ce n'est pas l'animateur qui s'agite comme une guêpe qui a vu je ne sais pas quoi. Moi, je vais voir les techniciens. Je vais voir les techniciens, voilà. Il y a un technicien qui est derrière. Sans lui, nous n'aurons
merci,
pas
alors on va en profiter. Voilà. On va en profiter pour le remercier et l'applaudir.
Voilà. Donc, à un moment donné, l'écrivain doit être à la fois celui qui parle, mais aussi un technicien. Il doit aller repérer les voix qui viennent. Parce que ça a un avantage. Ça, on ne le sait jamais. Ça t'évite de voir un courant qui passe et que tu ne l'as pas vu passer. Quand tu l'as vu, quand tu le sens, moi, je peux détecter un écrivain. Ben ouais, je détecte un écrivain, je lis quelques pages, je vois, je sens qu'il y a quelque chose là, mais parfois l'écrivain n'est pas dans la bonne maison ou ne trouve pas de bonne maison ou qu'il y a quelque chose dans sa personnalité qui fait que soit il est trop hautain, soit il est trop ceci ou cela. Il faut lui parler. Les jeunes, il y a de l'impétuosité. Hein, quand ils arrivent, ils croient que le monde entier attend leur roman. Donc, ils ne comprennent pas, ce n'est pas possible. Ils arrivent à calculer les ventes. Ils disent non, tu es un écrivain, pas celui qui fait des comptes d'apothicaire. Ton truc, c'est tu écris ton livre, que tu sois lu par 300 personnes ou 400 personnes, il faut faire des livres dont tu n'auras pas honte dans 10, 15, 20 ans. Parce qu'il y a des livres qui peuvent s'autodétruire s'ils sont écrits pour une circonstance. Ton livre, il est écrit pour un certain imaginaire. Ce n'est qu'un pan de ce que tu vas faire ensemble et qui fera de toi une œuvre. C'est difficile de demander de la patience à la jeunesse. C'est comme si, voilà.
Une fois qu'elle a réussi, elle vous snob. C'est terrible.
C'est pas grave. Un jour, oui. Il sera tout. Parce que quand ça retombe, il reviendra.
Il revient, c'est
grand
sûr.
Grand frère, vraiment. Moi, j'ai vu quelqu'un, grand frère, vraiment, vraiment, j'étais ingrat, tout. Il n'y a pas de problème, on reprend. On recommence. Oui. Tu as un manuscrit, oui. Et on lit, bon, on repart. Et il s'oublie plus souvent, il redevient humble.
Ouais. Voilà. Mathieu, mais je pense ce qui m'a frappé chez Roger Gilbert Lecomte, c'est cette urgence de la poésie. Et que de la poésie, pratiquement. Hein. Il aura beaucoup de peine à aller au-delà de la poésie, à faire un roman. Et j'ai le sentiment que l'entrée en littérature se fait souvent par la poésie, que c'est vraiment une porte d'entrée avec une espèce de recherche de pureté, de perfection.
Oui, alors en ce qui le concerne, c'est la poésie qui l'intéresse d'abord, avant tout et surtout. Donc, le roman, il n'y pensera jamais, quasiment jamais. Il écrit évidemment des textes qui sont des sortes de manifestes ou des essais ou des choses sur d'autres poètes, etc. Ou sur
des textes pour la revue, notamment.
Voilà, pour la revue qu'il a fondée, qui sont aussi des manifestes esthétiques, des textes métaphysiques. Donc il y a ça, cette partie peut-être un petit peu plus théorique, il y a sa correspondance évidemment, mais sinon, d'ailleurs, il publie qu'un seul recueil de son vivant, c'est un très court recueil de poésie et c'est à peu près tout. Et je pense que pour lui, mais comme beaucoup d'autres, la poésie, c'est vraiment le noyau de l'écriture et de la littérature. C'est-à-dire que tout peut être dit, tout doit être dit avec cette forme très particulière, à la fois succincte, puis en même temps qui doit être extrêmement forte et puissante, et qui doit être un miroir de sa quête artistique et existentielle. C'est-à-dire que pour lui, la poésie, c'est pas une fin en soi, c'est ce qu'il déteste le plus au monde, et c'est ce que ces gens-là détestaient, c'est la poésie vue comme un ornement ou une jolie chose, quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien, qu'on va trouver belle, etc. Ça les dégoûtait, ça leur faisait horreur, vraiment. Pour eux, la poésie, c'est le cœur même qui permet enfin, c'est un des cœurs, il y en a d'autres, par exemple la drogue, ou par exemple, enfin, toutes sortes de choses qui permettent de dépasser la condition humaine et l'existence, et la conscience rationnelle, et la vie quotidienne, la vie banale, etc. Et donc, cette poésie, ils mettent elle porte un tel enjeu qu'elle est pour eux, c'est une question de vie ou de mort, vraiment.
C'est l'occasion de rappeler, Alain Mabanko, que vous êtes aussi un formidable poète, que vous avez commencé par la poésie et qu'entre 1993 et 2016, vous avez publié entre 6 et 7 recueils de poésie. Et je vous le disais juste là en arrivant, et vous me disiez, oui, mais ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là, les recueils de poésie? Donc vous n'avez plus qu'à aller chez un vrai libraire pour acheter les recueils de poésie d'Alain Mabanko. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure qui fait que vous avez commencé par la poésie, cette espèce de quête d'absolu, de littérature absolue?
Non, parce que moi, j'ai commencé à écrire en Afrique. Donc en général, pour nous, les Africains, la poésie, c'est un genre majeur. Pour nous, on voyait les romanciers comme c'est des bavards.
C'est des poètes ratés, voilà, les romanciers.
Ils ne savent pas s'arrêter. Voilà. Pour nous, quand on écrivait, on se scindait entre les prosateurs et les poètes. Et même auprès des filles, c'est les poètes qui damaient le pion. Hein, quand on arrivait, c'est les filles.
Vous avez fait poète pour les gonzesses, finalement.
Ah ben, quand on est jeune, on commence à écrire la poésie, c'est des poèmes d'amour. On commence par larmoyer, tu es parti, je ne mange plus, le soleil se couche plus. Voilà, on écrit un peu, voilà, si c'est comme ça, je vais me noyer. Ben voilà, ça arrive. On a fait cette poésie. Moi, j'écrivais comme ça des poèmes comme tout le monde parce que on était à l'âge de l'adolescence. Et puis, ce qui a été plus important, c'était quand on lisait la biographie des poètes. Chez les poètes, dans leur biographie, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Des jambes qu'on coupe, des jeunes hommes qui vont en Éthiopie, et à 17 ans, ils écrivent avec des beaux cheveux, qui se font flinguer à Belgique, avec les Verlaine, les Rimbaud, mais c'était palpitant. Alors que le romancier, bon, vous voyez, il est content, il a écrit 14 romans, il a écrit le Comte de Monte Cristo, ah, c'est long. Et on prenait de la poésie et on pouvait réciter. On allait chez une fille, on pouvait même piquer les phrases, je sais pas, de Chateaubriand, mon cœur à ta clarté s'enflamme, je sens des transports inconnus, douce lumière, es-tu leur âme. Hein? C'est du Chateaubriand. Et la fille qui dit, ah, c'est de toi, oui, c'est de moi. Voilà. Ça arrivait. Donc
ça marche avec les poèmes de Roger Gilbert Lecomte, non?
Pas du tout. pour draguer une fille, c'est totalement foutu. Non.
Donc du coup, quand j'ai commencé, évidemment, quand je suis arrivé en France, j'avais au moins 20 cahiers de poèmes à la main. J'ai écrit, j'ai envoyé à tous les éditeurs qui refusaient. J'étais déprimé, j'ai dit mais je comprends pas, et pourtant je croyais qu'on m'attendait en France, c'est pas grave, bon, j'ai rangé tout, ben j'ai commencé à publier dans les revues, et après j'ai publié, certains même étaient publiés à compte d'auteur. C'est vous dire que l'acharnement de la jeunesse, il faut pas le négliger. Le premier recueil, avec ma petite bourse, j'ai dit c'est pas grave, je vais publier 50 exemplaires. Que j'ai distribué à mes amis à l'école et à Nantes. Je donnais tout. On disait, bon, ça va, ça ira. Ou j'envoyais les gens à la librairie. Hein, parce que les libraires, ils n'exposent pas toujours de la poésie. Donc il fallait, vous avez édité votre livre, vous allez frapper à la librairie, vous dites, vous ne pouvez pas prendre 3. Et dit, ah, vous savez, bon, la pitié du libraire, il prenait 2. Et vous restez debout et dites, mais c'est bon, j'ai pris des noms, mais mettez en vitrine. Donc il y avait toujours, on veut en vitrine. La première fois qu'on avait mis un recueil en vitrine, je me rappelle, c'était rue Cujas. J'ai passé tous les jours pour vérifier qu'on ne l'a pas enlevé. Voilà. Un jour, on l'a enlevé, et je rentre là, je dis, mais je ne vois plus mon recueil. Et alors, ah non, mais j'allais vous dire, vous avez envoyé un ami là qui l'a acheté. Donc, c'était un ami qui l'avait envoyé. Et puis, j'ai dit, mais vous pouvez commander encore. Donc, il dit, non, c'est bon, voilà. Et il n'a plus commandé. Mais après, j'ai publié d'autres recueils qui forment, ça fait plus de 400, 500 pages de recueils qui sont désormais publiés aux éditions du Seuil dans les poches points. Ça ouais. S'appelle Tant que les arbres.
C'est des très jolies éditions, voilà, d'ailleurs.
Tant que les arbres s'enracineront dans la terre. Mais une fois de plus aussi, c'est grâce au roman qu'on a pu publier mes poésies en poche. Ce n'est pas toujours évident. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on peut acheter ce recueil de poèmes à plus de 3000, 4000 exemplaires, je me suis dit, il y a quand même des gens qui sont fous pour lire la poésie et ça fait plaisir. Ouais. Mais je sais aussi que c'est les lecteurs du roman qui se déportent là-bas. Pour moi, c'était une belle école de faire de la poésie. Ça m'apprenait l'économie des mots, ça m'apprenait le sens des images, ça me demandait une narration vraiment plus apaisée que directement si j'étais venu par la prose.
Mathieu, tu dis de Roger Gilbert Lecomte que tout son programme poétique se résume par « Nous ne sommes pas au monde », référence à Rimbaud, bien sûr. Pourtant, il grandit bel et bien au monde, ce Roger, dans un paysage, je te cite, « d'outre-tombe et voit ». Il ne lit pas dans les manuels d'histoire, ni n'entend radoter un vieux grand-père. Il voit de ses yeux vierges ce dont l'homme est capable. C'est, il le sait par cœur.
C'est moi qui l'ai écrit.
Oui, oui, oui. C'est tout le drame de sa vie, finalement, de voir vraiment.
Oui, c'est tout, à la fois son drame et sa quête. C'est-à-dire qu'il voit là, c'est au tout début du livre, parce qu'il naît donc à Reims en 1907. Et donc, il a 8 ans quand c'est la guerre, la Première Guerre mondiale. Et Reims est donc totalement ravagé par la guerre, donc eux ils doivent partir évidemment, après ils reviennent à la fin de la guerre, mais donc ce qui il grandit lui, et enfin il n'est pas le seul, mais toute cette génération grandit avec, enfin dans ce moment-là qu'est la Première Guerre mondiale, dont on sait évidemment les ravages qu'elle a fait, qu'elle a causé, les pertes des proches, etc. Lui son père, enfin sa famille survit, mais enfin voilà, vous êtes forcément entouré de destruction, de cadavres, etc. Et fatalement ça c'est un des nœuds de son existence, c'est évidemment pas le seul. Mais c'est pour ça que la première phrase du livre, mise à part la lettre du début, c'est très vite une histoire de destruction, parce que cette destruction-là, elle inaugure ce qui va être ensuite, mais ça c'est pas propre à Gilbert Lecomte, mais à cette génération de l'entre-deux-guerres, à la fois une volonté de faire table rase du passé, puisque le passé c'est quand même quelque chose de pas très glorieux.
On comprenne bien, un de ses amis au début c'est Roger Vaillant par exemple. Qu'on a un peu moins oublié.
Roger Vaillant ou René Daumal aussi, ouais. Qui est une autre personne qui est restée relativement connue dans des cercles littéraires en tout cas. Et donc c'est ensemble qu'ils vont fonder cette revue Le Grand Jeu. Mais donc la guerre inaugure ça et évidemment ça permet, c'est pas la seule clé de lecture, mais c'est une des clés de lecture pour comprendre ce besoin de faire table rase, de couper avec le passé et aussi éventuellement de plonger ou de se soumettre à une destruction toujours plus intense. En lien avec la création, ouais.
Alain Mabonco, on pourrait dire ça de Michel dans Les Cigognes sont immortelles. Il ne lit pas dans les manuels d'histoire ni n'entend radoter un vieux grand-père. Il voit de ses yeux vierges ce dont l'homme est capable.
Je pense qu'il faut voir. Les manuels d'histoire sont souvent compliqués. Je crois qu'il y a même un cours d'histoire, un professeur de géographie. Hein. Quand on nous présente les discours officiels, il est toujours en décalage avec ce que le peuple comprend. Parfois, on est obligé d'avaler les leçons. Quand dans le livre, à l'école, pour faire la géographie du Congo, on nous disait toujours « Le Congo est à cheval sur l'équateur. Bah, » Mon père dit « Mais déjà, il faut expliquer aux gens c'est quoi l'équateur. » Mais cheval pour les enfants, le Congo est à cheval sur l'équateur, donc ça coupe en deux. Donc, comme le Congo ressemble vraiment à quelqu'un qui est assis et que l'équateur passe au milieu, mais c'est des vérités qu'on entendait comme ça. Et l'histoire, c'est la même chose entre l'histoire normale plus l'histoire idéologique, parce qu'après on va vous expliquer pendant un semestre comment le président était Dieu, envoyé par Dieu, comment il avait combattu 14 tribus, il n'avait rien, les autres avaient des sagaies empoisonnées et il les a terrassés. Donc il y a une histoire aussi du mensonge qui se trouve à l'intérieur qu'il faut démêler pour peut-être voir plus clair. Mais moi je crois plus dans la force de l'histoire qui s'écrit. Celle qui s'est déjà écrite nous permet d'éviter les erreurs d'avant, de corriger, d'avoir des discussions, mais de faire de sorte que le présent que nous vivons soit bien disséqué, parce que ce présent-là, ça sera le passé de demain.
Vous voyez que cette rencontre improbable ne l'est pas tant que ça. Hein. On a encore quelques minutes pour vos questions à nos invités, Mathieu Mégevan, Alain Mabankou, donc n'hésitez pas. Je sais que personne ne veut se lancer pour la première, donc la deuxième sera pour qui? Tu l'as fait hier à la Coquette, d'ailleurs.
Merci.
Ouais. La troisième.
Ah mais ça veut dire qu'on a...
On a été complet, parfait. Vous avez soif peut-être. ou faim. Très bien. Oui, monsieur. On a un micro pour le monsieur? Oui, il est là. On va vous apporter un micro. Là, c'est le boulot du modérateur. Il faut meubler en attendant. Donc je vous rappelle les titres des ouvrages dont on a parlé. Alain Mabankou, Les cigognes sont immortelles. C'est tout frais, hein, c'est la rentrée littéraire. C'est au seuil. Et puis c'est tout frais aussi, c'est la rentrée littéraire. Mais chez Flammarion, Mathieu Mégevan, La bonne vie. Et on écoute votre question.
Enfin, c'est juste un commentaire qui peut susciter une réflexion, une réponse aussi. Il y a 20 ans en arrière, ça peut être 30 ans en arrière, quand on interrogeait un auteur à la télé ou à la radio, alors l'auteur il disait « Mais moi quand j'écris, je m'en fous du public, moi, voilà, il y a une sorte d'auto-épanouissement quand je dois être seul, etc. Donc je m'en fous du marché. Hein. » Et ça m'a fait quand même plaisir de vous entendre là, dire que quand même, quand on écrit pour quelqu'un, et puis que c'est l'autre qui est là, en fait, qui donne. Il me semble qu'il y a quand même une évolution par rapport aux écrivains, il y a 30 ans en arrière, qui étaient subventionnés par Pro Helvetia d'entrée. Vous voyez, ils n'avaient pas besoin de vendre. Maintenant, il reste quand même la problématique du bon produit littéraire et de l'échec commercial. Ça reste quand même. C'est douloureux. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça.
Votre remarque, elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de notions dedans. Est-ce qu'on écrit pour quelqu'un ou est-ce qu'on écrit pour un marché? Ce n'est pas forcément la même chose. Hein. On peut écrire pour quelqu'un et trouver un marché ou pas.
Prendre le public pour un marché, c'est pratiquement une sorte d'insulte. Ouais. Je pense que ça dépend. Qu'est-ce qu'un échec commercial n'est pas forcément un échec littéraire. Il y a des grands écrivains comme les Pierre Michon ou Kuala qui ne sont pas lus. Il y a d'autres qui vendent 500 000 exemplaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une œuvre. Même s'ils ont écrit 40 livres, mais quand quelqu'un qui passe là, il vend 300 exemplaires, les gens se prosternent vers celui qui vend 400 parce qu'il y a derrière lui la force de pouvoir dire le monde avec ses tripes. Et l'autre, il fait des sujets, du temps, etc., etc., ça va. Mais il n'est pas exclu qu'un livre chargé d'une puissance littéraire puisse croiser un succès populaire. Je sais qu'en Europe ou en France, on a toujours tendance à...
C'est suspect, le succès en France. Hein.
C'est-à-dire que tant que vous vendez 500 livres, vous avez du génie. Oui. Dès que vous commencez à en vendre 200 000, 300 000, on dit « Ah, ça y est, on l'a pris. Moi, j'aimais bien quand... » Donc, bon... Gabriel Garcia Marquez, il vendait des millions d'exemplaires. Personne ne lui a ôté son caractère de grand écrivain. Mario Vargas Llosa, les mêmes choses. Modiano, etc. Ça dépend. Tout se joue par l'œuvre, l'imaginaire, les obsessions qui reviennent, etc., etc. On écrit forcément pour être lu. Dans le mot publié, il y a public qui est à l'intérieur. Sinon, on écrit, on reste dans sa chambre et puis on lit soi-même. Si on a pris la décision d'emmener chez un éditeur, l'éditeur, ne l'oublions pas toujours, une maison d'édition, c'est une entreprise commerciale. Oui. Ce n'est pas une entreprise caritative. Mmh. Il peut vivre. Mais il arrive que cette maison d'édition peut publier des livres qui ne se vendent pas. Il y a peut-être un ou deux livres qui se vendent, qui permettent de publier d'autres livres.
Mais on rappelait hier dans la rencontre avec Olivier Nora pour les éditions Grasset qu'au départ, les éditions Grasset étaient à compte d'auteur, comme toutes les maisons d'édition à l'époque, et qu'un certain Marcel Proust avait été refusé par Gilles chez Gallimard et avait été publié en premier par Grasset, même s'il est retourné chez Gallimard après. Oui. Voilà, donc
je pense
on n'est pas à l'abri de louper des génies. Hein.
Non, je pense qu'il n'y a pas de honte. Et moi, ça ne sert à rien de prendre des postures, parce que les écrivains qui font comme ce que vient de dire monsieur tout à l'heure, c'est les mêmes qui, quand la nuit tombe, ils vont appeler pour savoir combien de livres ils ont vendus. Hein. Parce que ce n'est pas parce qu'il a tenu un discours, moi le public, non, moi j'écris pour moi-même, de toute façon, moi je ne suis pas pollué, les autres ils sont dans les systèmes. Moi j'ai vu des gens qui me disent, oui, mais les Mabankou, c'est des francs-maçons, etc. Donc on cherche des éléments pour expliquer que, et il est franc-maçon, c'est pour ça qu'il passe dans les médias, parce que s'il n'était pas franc-maçon, prenez la carte franc-maçon, tous les francs-maçons passent à la télé. Donc ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a toujours un côté suspect dans le succès. Le succès est toujours suspect.
Et souvent, on ne le pardonne pas.
Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous ne vendez pas que vous avez forcément du génie. C'est ça aussi.
Oui, absolument. Voilà.
Merci beaucoup. Une autre question ou une autre remarque? Oui, on vous apporte le micro.
Merci. Alors, je sais qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais ma question s'adresse à Alain Mabankou. Vous avez, en 2016, tenu un cours au Collège de France, Lettres Noires. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que ce passage avait eu une incidence sur votre travail d'écrivain, en fait, sur votre posture aussi peut-être d'écrivain, puisque, si je me souviens bien, le titre du séminaire était « Création littéraire », c'est juste.
Tout à fait. Voilà.
Mais maintenant, tu es professeur au Collège de France.
Oui, puis c'était, mais j'avais une chaire annuelle.
Oui, voilà, mais maintenant, c'est...
Mais je ne peux pas me titulariser parce que je suis déjà titularisé à Los Angeles, d'accord, à l'Université de Californie, où je suis depuis 16 ans. Donc, je ne peux me détacher que venir enseigner une chaire un an, retourner enseigner chez moi et puis revenir, etc., etc. C'était une expérience intéressante puisque c'était la première fois qu'on donnait une chaire à un écrivain au Collège de France et c'était la première fois qu'on y enseignait la littérature africaine en français que j'ai enseigné là-bas. J'étais très étonné par le public puisque c'était des cours où arrivaient 1200, 1500 personnes.
Ah, il y a un monde fou, incroyable.
C'était rempli. Je me rappelle la leçon inaugurale, il y avait tout le gouvernement de François Hollande était devant, ils avaient réservé des places avec des carnets pour prendre des notes comme si il devait s'en sortir quelque chose de divin. Donc ça fait quand même changer quelque chose dans la perception des lettres africaines en France et peut-être même dans le monde francophone, comme ils disent.
Oui, exactement.
Hein, puisque la leçon inaugurale était diffusée par Radio France Internationale. Pendant une heure, deux heures, ça se passait. Et moi, je pense que, pour moi, c'était la continuation, puisque ça fait 16 ans que j'enseigne aux États-Unis, maintenant à Los Angeles. Et pour moi aussi, c'était un pied de nez à la structure académique française. Le Collège de France, c'est le summum de la recherche scientifique en France, dans le monde même pratiquement. Donc tous les professeurs, qu'ils soient agrégés ou je ne sais pas quoi, ils rêvent d'aller au Collège de France, ils tueraient leur mère ou leur père pour y entrer. Et tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui rentre. Moi je n'ai jamais postulé. un jour, j'ai reçu un email d'Antoine Compagnon. Il dit, oui, les professeurs du Collège de France se sont réunis. On veut donner une chaire à un écrivain. Et c'est vous. Bon, moi, j'ai lu. Je n'avais jamais mis les pieds au Collège de France. Moi, j'ai eu le Collège de France. J'ai passé devant. Il y avait une sorte de maison. Je pensais que c'était une association, je ne sais pas, des gens de la Rose-Croix ou qui faisaient quoi à l'intérieur. Et j'ai commencé à lire, j'ai dit, oulala, c'était vieux, 1500 et quelques, 1600. J'ai dit, bon, j'ai laissé couler. Et j'ai écrit à mon ami Achille Mbembe, qui est l'un des grands historiens, philosophes africains. J'ai dit, mais j'ai reçu un mail bizarre d'Antoine Compagnon, que je ne connais pas, mais dont j'ai écouté les émissions et dont j'ai lu certains livres. Il m'a dit, Collège de France. Et là, le philosophe, il est quand même professeur à Columbia et à l'Université d'Afrique du Sud, et il est historien, il a écrit des livres savants. Il dit, mais tu es malade. Quand on reçoit une lettre du Collège de France, on répond dans la minute qui suit. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben voilà. Donc, et du coup, ben, et il a dit, tu dis oui, et puis tu verras. Parce que si tu dis non, il y aura 14 000 personnes qui viendront à la place. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais répondre. Je suis allé répondre, et voilà comment s'est passé. Les actes certains actes du colloque que j'ai fait là-bas ont été publiés au Seuil sous le titre « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui ». Ça a donné le débat, ça a ouvert. Voilà.
Alors ici, on est un tout petit peu plus tolérant. Dès la fin du débat, on a 5 minutes pour aller jusque sous la tente et se préparer à dédicacer les ouvrages, dont je rappelle les titres, Mathieu Mégevand, La Bonne Vie. Non seulement c'est passionnant, c'est fort bien écrit, c'est chez Flammarion. On se réjouit beaucoup d'avoir les deux autres volets du triptyque. Et puis Alain Mabankou, on retrouve avec plaisir ce double littéraire qu'est Michel dans Les cigognes sont immortelles. C'est la rentrée littéraire chez Seuil. Mesdames et messieurs, Alain a raison, on a remercié le technicien du son. On va remercier aussi ceux sans qui ce festival ne serait pas possible. C'est tous les bénévoles qui travaillent pour Le Livre sur les quais. Merci de les applaudir. Et puis on va remercier encore plus chaleureusement nos auteurs d'être venus partager ce moment improbable avec vous. Mathieu Mégevand, Alain Mabankou, merci beaucoup.